Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la fausse femme traditionnelle, aussi appelée tradwife ou tradas par ses détracteurs. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous lirai au cours de ce podcast un extrait de mon livre Caractère, chapitre 10, qui raconte la véritable histoire d'un homme en mal de tradition qui s'est fait avoir, ruiné, et qui a même risqué 7 années d'emprisonnement pour s'être malencontreusement associé à l'une de ses femmes. Mais avant de lire cet extrait, parlons un peu. On constate un véritable engouement pour la tradition ou pour un retour à la tradition chez beaucoup de jeunes hommes. Les femmes le savent et en parfait caméléon, elles se préparent aussi à entamer ce virage à 180 degrés. La dévergondée d'hier qui a parcouru un quasi-marathon de queue apprend maintenant à faire la cuisine, les gâteaux, le ménage. Certains découvrent Dieu, la foi. Le voile. À ce rythme, l'Occident sera bientôt rempli de sœurs ou de ourties en un rien de temps. Comme on le dit en français médiéval, « Mashallah » ou « Mashallah ». Il y a un auditeur qui m'a repris en me disant « L'observateur, c'est pas Mashallah, c'est Mashallah. Ma, ce que, Sha'a, a voulu, Dieu. Mashallah signifie « ce que Dieu a voulu ou selon la volonté de Dieu. » Voilà pour le petit cours de linguistique française. Oui, française, parce que je pense que tout ça va bientôt rentrer dans le dictionnaire. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement de la langue. Mais que penser de tout ça? Que pense l'observateur de ce retour à la tradition? Faut-il le saluer? Faut-il dénoncer l'arnaque et lever le voile sur cette supercherie? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Va te prendre un petit thé, une tisane, un petit café, assieds-toi confortablement, tu t'apprêtes à écouter un chef-d'œuvre. Tout d'abord, que penser de ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de bonnes femmes qui se filment sur Instagram en train de faire des gâteaux habillées comme dans les années 50 avec le hashtag tradwife, femme traditionnelle? Tradwife est constitué d'une abréviation trad pour traditional et wife pour femme, femme traditionnelle. En premier lieu, je déclare que l'on a atteint les limites du féminisme. Le temps et l'âge commencent à nous dévoiler ses dégâts. Les premiers milléniaux ont maintenant bientôt 43 ans et le cimetière des éléphants dont j'avais parlé dans l'une de mes premières vidéos il y a de cela 5 ou 6 ans est en train gentiment de se remplir. Et je le vois tous les jours autour de moi, une quantité phénoménale de femmes, seules, passées la trentaine, sillonnant les cours de yoga, pilates, aquagym, salsa, bachata, kizumba, autant d'activités qui leur font oublier qu'elles sont en train de passer à côté de l'essentiel, à côté de la seule tâche qui en vaut vraiment la peine, la famille, la reproduction et la continuité de l'espèce. Une notion que même le dernier des singes, le dernier des bonobos a compris. Entre deux reniflages de cul, le bonobo se reproduit. Et selon un article très sérieux de la banque Morgan Stanley, dont j'avais déjà parlé, qui s'intitule « The She Economy », l'économie, elle, 45% des femmes entre 25 et 45 ans seront seules et sans enfants en 2030. Et 2030, c'est une échéance qui n'est pas si loin que ça, et j'ai envie de dire que c'est assez dramatique. Alors, les opportunistes vont y voir une façon et une opportunité de faire du business parce que ces femmes célibataires et sans enfants vont générer une économie de par leur pratique. Les cours de bachata, kizumba, pilates vont exploser, yoga, les cabinets de psychiatres, de psychologues seront pleins. Donc oui, si on est un peu cynique et un peu opportuniste, c'est une vraie opportunité. Parce que ces nouvelles femmes seules et célibataires et sans enfants vont générer une économie de par leurs nouvelles pratiques, alors que les femmes qui ont des enfants, qui sont des mères de famille, auront d'autres préoccupations, l'éducation de leurs enfants. Et lorsqu'on est des banquiers pragmatiques, comme chez Morgan Stanley, on ne pinaille pas sur la question de dégénérescence, pas dégénérescence. Tout est une opportunité pour faire du fric. Après, on peut trouver ça scandaleux. Mais Morgan Stanley n'est pas responsable de la dégénérescence. Ils font le constat et ils se disent « voilà vers quoi on va en 2030 » et ils informent leurs clients, leurs investisseurs, qu'il y aura un petit billet à se faire. Donc forcément, l'alimentation pour chats, tous les produits qui tournent autour des animaux, les animaux de compagnie, est un business qui va exploser parce que forcément, la solitude va engendrer une adoption de masse des animaux de compagnie, des chats, des chiens, parce que les femmes n'aiment pas rester complètement seules. C'est triste ce que je dis, hein, c'est cynique, mais c'est vers ça qu'on va. L'industrie pharmaceutique, les antidépresseurs, le Xanax, les anxiolytiques, tout ça va exploser à l'avenir, et j'en parlais déjà dans mon premier livre MGTOW que je suis en train de rééditer, un peu de patience, il sortira. Et j'expliquais déjà que les premières consommatrices d'antidépresseurs et d'anxiolytiques étaient les femmes, ils ont consommé bien plus que les hommes. Et ce que nous rappelle Morgan Stanley, c'est que la dégénérescence est une économie. Et si vous ne comprenez pas pourquoi les grandes multinationales encouragent le wokisme, encouragent la libération sexuelle, etc., eh bien, la réponse, elle est là. C'est un business. La dégénérescence produit des dégénérés, et la caractéristique principale du dégénéré, c'est qu'il consomme. Qui va au McDo? Qui achète des litres de Coca? Je vous donne la réponse. Pas moi. Qui achète des antidépresseurs? Qui fait de la chirurgie esthétique? Qui s'intéresse à la chirurgie pour le changement de sexe, le changement de genre, etc.? Je vous donne la réponse. Pas moi. Ni moi, ni les conservateurs de mon genre. En général, les conservateurs ne sont pas particulièrement bons pour l'économie parce qu'ils ne consomment pas n'importe quoi. Un conservateur, c'est assez basique. C'est une famille, une femme, des enfants, une maison, une voiture à la limite. Et puis voilà quoi, ça s'arrête là. Les femmes qui, à 30 ans, sont encore là en train de prendre des cours de pilates, d'aquagym, bachata, kizumba, salsa, et je ne sais quoi d'autre, et qui consultent des psychiatres, des psychologues, qui consultent du développement personnel, du Tony Robbins et compagnie, à ne plus savoir quoi en faire, c'est les femmes seules. Je te garantis qu'une femme qui a 30 ans, deux ou trois enfants, a suffisamment de quoi faire. Quand tu as trois petits monstres qui t'occupent à plein temps, je te garantis que Tony Robbins, t'as pas le temps. Donc le conservateur n'est pas un très bon consommateur. Voilà pourquoi les multinationales encouragent la dégénérescence, parce que c'est bon pour l'économie. Encore une fois, c'est cynique ce que je dis, c'est déprimant, mais c'est la réalité du monde. Et aujourd'hui, cette fameuse milléniole à qui on a vendu l'indépendance, la solitude, la femme libérée, etc., eh bien, à 40 ans passés, commence à réaliser la violence et la réalité de la solitude. Elle commence à comprendre pourquoi sa mère et sa grand-mère ont eu des enfants, pourquoi elles ont construit une tribu. Elle réalise que la vie de la working girl qu'on lui avait promis n'est pas si enviable que ça. Et la génération Z, née à partir de 1995, commence à gentiment approcher de la trentaine, observe les milléniaux et se dit: on ne veut pas de ça. J'ai toujours pensé quelque part que les milléniaux, c'était la génération sacrifiée. Les milléniaux, c'est la génération de dégénérés qu'on a complètement sacrifiée. C'est une génération qui s'est prise dans la gueule à partir des années 2000, le 11 septembre, le terrorisme, la crise de 2008, le chômage, les boulots précaires. Et l'avantage de la génération Z n'est pas qu'elle aura une vie plus facile que la nôtre. L'avantage de cette génération est qu'elle est préparée à ça. Et elle sera moins bien surprise de la réalité du monde que notre génération. Le problème des milléniaux, le drame des milléniaux, c'est qu'ils ont vu leurs parents, les boomers, qui avaient accès à tout, accès au logement pas cher, accès au plein emploi, accès aux emplois bien payés, accès à la sexualité. Et nous, milléniaux, on pensait qu'on allait vivre à peu près la même vie que nos parents. La maison, le jardin ou l'appartement, la vie tranquille, le même boulot dans lequel tu restes 25 ans, les opportunités, l'ascenseur social, et on réalise que tout ça est cassé. On réalise que ça ne marche pas, et on se prend une claque monumentale. Et cette claque, la génération Z ne l'aura pas parce que eux, leur référence, c'est nous, c'est les milléniaux. Et les milléniaux, c'est la génération de la galère. Donc la génération d'après sait déjà à quoi s'attendre et se prépare à ça. Et c'est une chance pour eux parce que même s'ils n'auront pas nécessairement plus d'opportunités ou une vie plus facile, au moins ils n'auront pas le mythe de la vie du boomer et ils s'attendent déjà à ne pas avoir de retraite, à ne pas pouvoir accéder à l'immobilier. Certains ne veulent pas y accéder d'ailleurs et ne veulent plus. Il se prépare déjà à s'expatrier, il se prépare déjà à avoir des carrières saccadées, il se prépare déjà à être indépendant, à travailler pour eux-mêmes. Cette idée de rester dans un poste pendant 25 ans, 30 ans, la sécurité de l'emploi, beaucoup de jeunes l'ont déjà évacué. Et finalement, c'est une chance pour eux parce que notre drame, le drame de la génération des milléniaux, c'est pas qu'ils ont eu une vie plus compliquée, c'est qu'ils n'y étaient pas préparés. Et d'ailleurs, je discutais récemment avec mon frère qui a fait la même observation, qui m'a dit qu'il observe beaucoup de jeunes se mettre en couple, fonder une famille très tôt, commencer à vivre ensemble, prendre un appartement. Et de plus en plus de jeunes ne veulent plus de cette dégénérescence. De plus en plus de femmes de la génération Z commencent à réaliser que ça ne les intéresse pas. L'indépendance, la solitude, avoir un appartement seul, ça les intéresse de moins en moins parce que c'est compliqué, parce que c'est cher. Parce que c'est plus facile de partager sa vie avec un homme qui partagera les finances du foyer ou qui prendra totalement en charge les finances du foyer, les dépenses, qui protégera la famille, etc. Et surtout, cette génération a réalisé que la solitude, ça coûte cher. La solitude pour une femme, ça coûte cher. Payer son loyer seul, payer ses factures seul, payer ses dépenses seul, ça coûte cher. Donc voilà une première raison pour laquelle le féminisme est en train de reculer, c'est que les milléniaux aujourd'hui, et notamment les femmes, arrivent gentiment à la quarantaine, et ont même dépassé la quarantaine, et on commence à voir concrètement les dégâts du féminisme. Avant, je parlais des dégâts du féminisme comme d'une projection. Nous allons voir ce qui va se passer. Maintenant, on les voit, ces dégâts. On les voit. Les féministes d'hier sont en train d'arriver gentiment à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine, et on commence concrètement à voir les résultats de cette vie de femmes libérées sur leur quotidien. Pauvreté, isolement, solitude, dépression. Et une deuxième raison de l'apparition de la tradwife ou de la femme traditionnelle est que le wokisme est en perte de vitesse. Pourquoi ? Parce que le dogme du wokisme s'efface de plus en plus face aux vraies questions, face à l'économie, face aux difficultés de la vie, face aux dégâts qui est en train de provoquer l'inflation sur la vie au quotidien. Pour le dire autrement, le sociétal commence à faire place au social, ce qu'on va appeler tout simplement le retour du réel. Le wokisme ne peut exister que dans une société riche. C'est quand t'as rempli tous les étages de la pyramide de Maslow, quand t'as mangé, t'es vêtu, t'es nourri, t'es logé, t'es soigné. C'est quand t'as rempli tous ces étages que tu commences à te demander « Suis-je un homme? Suis-je une femme? Quelle est mon identité de genre? Est-ce que je dois déboulonner la statue de Churchill parce qu'il se trouve qu'il a dit un truc raciste il y a 80 ans ?» Est-ce que je dois déboulonner toutes les statues des grands navigateurs britanniques parce que l'esclavage, parce que... Ce genre de questions, tu te les poses que quand t'es riche. Quand la réalité économique s'impose, tu redescends dans les étages de la pyramide de Maslow et les questions, c'est plus la statue de Churchill. Les questions, c'est comment je vais me nourrir, comment je vais me vêtir, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, comment je vais payer mes crédits, comment je vais payer mes impôts. Et ce qui se passe en ce moment avec... cette crise économique chronique qui n'est pas violente, qui n'est pas spectaculaire, mais qui est là, on commence à collectivement redescendre d'un degré dans la pyramide de Maslow, on commence à redescendre d'un étage et toucher aux vrais problèmes vitaux, élémentaires. Et la question de payer 50 000 balles pour une opération de changement de sexe ne se pose plus. Parce que les 50 000 balles, tu ne les as pas. Et aussi, autre chose qui ramène beaucoup de femmes à la réalité, c'est que les chamboulements technologiques vont être dramatiques pour les femmes. Pourquoi je dis pour les femmes ? Eh bien, parce que les métiers que l'intelligence artificielle va remplacer sont beaucoup et principalement des métiers de femmes, secrétaires, correctrices, traductrices. Et en échangeant avec mon frère qui est biologiste, il me dit « dans 2-3 ans, au labo, on n'aura plus besoin de secrétaires, d'administratrices ». Pourquoi ? Parce qu'il utilise de plus en plus Bard de Google et ChatGPT pour faire son travail administratif. Toutes les analyses comparatives de données, d'articles, de tableaux, il les fait sur Bard, qui lui génère des tableaux Excel. Toutes les notes, les traductions qu'il fait en anglais, ben il les fait avec ChatGPT, parce qu'il publie en anglais. Tous les biologistes, tous les scientifiques, même s'ils sont français, ils publient en anglais parce qu'ils veulent être lus. Il y a plein d'articles scientifiques en anglais qui sont écrits par des Français. Toute la communauté scientifique écrit en anglais. Et avant, il avait besoin de l'aide d'une traductrice, d'une secrétaire, de quelqu'un qui maîtrisait un peu. Et il me dit, tout ça, c'est en train de disparaître. Il me dit, la quantité de temps que je gagne grâce à l'intelligence artificielle qui n'est qu'à ses débuts est phénoménale. Donc tous les petits boulots littéraires qui étaient essentiellement faits par les femmes et les petits boulots du tertiaire vont petit à petit être remplacés par l'intelligence artificielle. Et les femmes ne le savent pas, mais c'est elles qui vont le plus souffrir de l'intelligence artificielle, du développement de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les métiers d'hommes vont mettre beaucoup de temps avant d'être remplacés et certains ne seront jamais remplacés. Faut être réaliste, ChatGPT n'est pas encore en mesure de déboucher les chiottes, de tirer des câbles électriques, d'installer la fibre, de faire de la soudure. On n'y est pas encore. Et même dans 50 ans, on n'y sera pas. Quand tu vois la dextérité qu'il faut à un électricien pour tirer des câbles, vérifier les angles, installer des gaines, même les robots ne seront pas capables de faire ça. Les robots font ou savent faire des tâches faciles. Nettoyer un sol, c'est une surface plane. Tu lances un robot, il nettoie, il ponce. Il peut faire quasiment tout sur une surface plane, mais lorsqu'il s'agit d'entrer dans une gaine, tirer des câbles, faire des choses un peu complexes, on n'y est pas encore. Donc les vrais boulots de bonhomme, échafaudeur, ça ne sera pas remplacé par ChatGPT, même dans un siècle. Résultat, les femmes commencent à réaliser l'importance des hommes, elles réalisent que la majorité des emplois qu'elles font sont largement remplaçables. Par contre, les boulots d'hommes, les boulots de la vie réelle, le chantier notamment, sont et seront toujours des emplois d'hommes qui ne seront jamais remplacés par l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, les femmes vont réaliser l'importance des hommes, l'importance du couple, l'importance de la famille, l'importance protectrice qu'avait le mariage pour la femme. Le mariage n'a jamais eu aucun intérêt pour un homme. Le mariage a toujours été un contrat qui protège la femme. C'est ça le mariage. En général, c'est les hommes qui ont les biens, c'est les hommes qui ont les maisons, c'est les hommes qui ont les meilleurs salaires parce qu'ils font les boulots les mieux rémunérés. Donc, un homme, en général, a toujours à perdre lors d'un divorce. Celle qui s'en sort le mieux, c'est la femme. Et toutes celles qui ont été endoctrinées par le féminisme ont oublié que le mariage était à la base un contrat qui protégeait les femmes. Les hommes n'ont jamais eu aucun avantage au mariage, aucun. Aujourd'hui, j'ai tout à perdre en me mariant. Il y a peu ou pas de femmes qui ont mon patrimoine. Donc forcément, si je me marie, en divorçant, pour elles, c'est le jackpot. Je n'ai absolument rien à gagner financièrement en me mariant. Et si je le fais, et la seule raison pour laquelle les hommes le font, c'est qu'ils protègent la mère de leurs enfants. D'accord, en divorçant, ta femme prendra la moitié de la maison, mais c'est la mère de tes enfants. Veux-tu que la mère de tes enfants soit dans la misère ? Non, c'est pour ça que la majorité des hommes se font nettoyer, enculer après un divorce, et leur seule consolation, c'est de se dire « c'est la mère de mes enfants ». D'accord, à maniquer, elle a pris la moitié de mon patrimoine, mais c'est la mère de mes enfants, quoi. Voilà, c'est « allez, on va prendre ça comme un geste vertueux. C'est un don à l'humanité ». Une femme qui n'est pas dans le besoin est une femme qui pourra prendre soin de ses enfants, qui pourra les élever dignement, qui pourra leur donner les conditions nécessaires pour pouvoir évoluer normalement. Une mère détraquée créera des enfants détraqués. Forcément. Et c'est la seule raison pour laquelle la société protège les femmes. C'est comme ça qu'on arrive au système occidental, à la social-démocratie qui surprotège les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que des femmes dégénérées donnaient des enfants dégénérés, donnaient des générations de dégénérés. Et comme l'éducation passe par la mère, il est nécessaire de la protéger un peu. Mais vous allez me dire, lorsqu'on regarde dans le détail, c'est pas toujours le cas et c'est un système qu'il faut réformer. Le système social ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on remarque qu'il est très généreux. Les femmes touchent des aides, elles touchent la CAF, elles sont prioritaires pour le logement social et malgré tout, elles éduquent pas leurs enfants. Tous les délinquants de banlieue, toutes les racailles, tous les criminels, tous les voleurs, tous les djihadistes ont un seul point commun, la mère isolée, la mère célibataire. Tous, sans exception, et que ce soit en France ou aux États-Unis, tous les Afro-Américains, les trafiquants de drogue, les délinquants, lorsqu'on remonte à la source, c'est toujours la même, la mère. Ça veut dire que même si le système a l'idée qui peut paraître bonne sur le papier, protéger les femmes pour éviter que les enfants tournent mal, en réalité, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et à part le patriarcat, la société traditionnelle, il n'y a rien qui a fonctionné. Les féministes critiquent le patriarcat oppresseur, mais est-ce que vous avez fait mieux? Ce patriarcat oppresseur a créé de grandes nations, a navigué sur la terre entière, a inventé des choses incroyables. Vous avez fait quoi depuis? Que nous a apporté le wokisme? Et je pense que l'une des façons de réformer le système social, c'est l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est-à-dire, si ton fils est délinquant, on te retire la CAF. Si ton fils vole un scooter, on te retire toutes les aides sociales. Pourquoi? Parce que le but des aides sociales, c'est que t'éduques tes gamins. Si tu ne le fais pas, on te les retire. Et je pense que si on soumet les aides sociales à une condition de résultat, les choses se passeraient différemment. Je ne me fais pas d'illusions, on ne pourra pas totalement les supprimer. En libéral absolu, j'aimerais qu'on supprime complètement les aides sociales et qu'on n'ait pas à les utiliser. Chacun sa merde, chacun sa vie, que chacun se démerde. Je n'ai pas à payer avec mes impôts, je n'ai pas à financer avec mes impôts le train de vie d'une débile qui n'est pas capable de gagner sa vie. Mais je ne me fais pas d'illusions, on ne pourra jamais les supprimer. Par contre, il faudrait soumettre les aides sociales à une obligation de résultat. Et s'il y a des politiciens qui m'écoutent, je pense que c'est tout à fait applicable. Supprimer les aides sociales si le gamin est un délinquant. Supprimer les aides sociales à la mère si le gamin est un délinquant. Et vous verrez que les parents se comporteront différemment s'ils savent que les aides sociales sont conditionnées par le comportement de leurs enfants. Et donc, il y a une minorité de femmes qui vont faire ce constat, qui vont devenir traditionnelles par conviction, parce qu'elles auront fait le tour, parce qu'elles auront compris que le féminisme ne leur apportera rien, parce qu'elles auront compris que leur vie sera plus facile si elles s'associent à un homme de qualité, si elles fondent une famille, si elles ont des enfants, si elles se rangent et qu'elles arrêtent de traîner dans les cours de pilates, de bachata, kizumba et qu'elles deviennent des mères responsables. Par contre, il y aura une autre partie, et je pense que ça sera la majorité, il ne faut pas se faire d'illusions, qui seront des opportunistes, qui seront des caméléons, qui mimeront la tradition, qui feront mine d'être traditionnels, mais qui ne seront pas traditionnels. Elles feront ce qu'on appelle en anglais du virtue signaling, c'est-à-dire qu'elles montreront en apparence, elles exhiberont en apparence des traits de la personnalité traditionnelle ou de la personne traditionnelle, mais en réalité, elles n'y croiront pas vraiment. Ça sera plus un coup marketing qu'une vraie conviction. Et à ce titre, vous avez été nombreux à me demander de parler de Thaïs Descuffon, notre égérie nationale, anciennement porte-parole de Génération Identitaire, qui s'est reconvertie en spécialiste des relations hommes-femmes, un peu grâce à moi et grâce à la découverte du MGTOW. Et j'avais prévu, à l'origine, de faire une vidéo entière au sujet de Thaïs Descuffon. Mais une chose m'a fait changer d'avis, et la raison est que elle subit déjà un shitstorm sur Internet. Le shitstorm, c'est une tempête de merde en anglais, et je ne voulais pas en rajouter une couche. Voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je me suis dit, à ce stade, critiquer Thaïs Descuffon, c'est pas tirer sur une ambulance, c'est littéralement sortir le malade de l'ambulance et l'achever. Donc n'étant pas un charognard, je préfère m'abstenir et ne pas en rajouter et ne pas faire partie de la meute qui en fait déjà beaucoup, notamment sur Twitter. J'ai regardé, j'ai lu un peu les commentaires en bas de ces tweets. C'est le seul mot qui me vient à la tête, c'est shitstorm, une tempête de merde. Ce qu'elle se prend, quand tu lis ça, t'as plus envie d'en rajouter. Donc je me suis dit, comment parler de Thaïs Descuffon sans faire une vidéo à charge? Parce qu'honnêtement, c'est même plus la peine de l'enfoncer. J'ai même pas envie. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est au lieu de faire une vidéo à charge ou une vidéo moqueuse ou une vidéo que certains risquent de trouver un peu trop agressive, je me suis dit, je vais lui donner des conseils. étant son père spirituel, je lui dois bien ça. Donc Thaïs, si tu m'écoutes, je vais te parler comme un daron. Tu prends un carnet, des notes, je pense que tu t'es déjà servi ta petite tisane, et t'écoutes. Ne fais pas de commentaires, écoute. Le premier point que j'ai constaté, c'est que tu te contredisais un peu trop. Il est évident que tu aimes l'attention, tu aimes les médias, Internet, la célébrité, Twitter, les followers, etc. Mais tu te contredis en disant qu'il faut justement éviter les femmes qui aiment l'attention. Je vais reprendre l'un de tes tweets où tu dis « Choisissez précautionneusement celle que vous épouserez, notamment en prêtant attention aux red flags, body count, addiction aux réseaux sociaux, victime de ses anciennes relations, un mauvais choix peut transformer votre vie en enfer. » Alors je ne peux que valider parce que tu me paraphrases, tu reprends tout ce que j'ai écrit dans « Caractère, 12 types de femmes à éviter » et tu reprends même mon vocabulaire. Quand je dis que les femmes dépourvues des qualités requises feront de votre vie un véritable enfer. Et aussi, le type de femmes que tu conseilles d'éviter sont typiquement extraits de mon livre. Alors, je ne sais pas si tu as lu le livre ou juste la table des matières, mais le body count, éviter celle qui a eu trop de partenaires, éviter la femme addict aux réseaux sociaux, ce que j'ai appelé la dopamine junkie, éviter les femmes qui ont été traumatisées par d'anciennes relations, celles qui ont des daddy issues. Et tu t'inspires de mon travail, même sans le citer, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour devenir populaire ou pour faire des collaborations, ça ne m'intéresse pas. Tu remarqueras que la célébrité ne m'a jamais intéressé. Donc je ne dis pas ça pour dire « t'as pas mis le lien vers mon livre, j'en ai absolument rien à foutre, le livre se vend très bien, il y a bientôt 100 commentaires en quelques mois, il est très bien noté, les commentaires sont élogieux, même les commentaires négatifs sont élogieux ». Parce que les commentaires négatifs, comme vous pourrez l'observer si vous allez sur Amazon, ne sont jamais des commentaires sur le fond, c'est souvent des femmes qui se sont senties visées. Pourquoi ? Parce que je définis la femme tatouée, par exemple, comme étant une femme à éviter dans un chapitre entier, donc forcément, si tu es une femme tatouée, tu vas te sentir visée. Voilà le type de reproche que j'ai. Mais c'est un avis qui n'engage que moi, certains y adhèrent, d'autres pas. Donc je n'ai pas besoin de célébrités supplémentaires, je ne veux pas de célébrités supplémentaires parce que le problème c'est que quand tu es trop célèbre, tu commences à avoir d'autres problèmes. Les gens de ma niche, les Red Pill, les MGTOW, s'attendent à ce type de contenu, donc tu peux leur parler sans avoir peur de les choquer. Alors que si je deviens trop généraliste et que je fais attention à ne pas choquer les religieux, à ne pas choquer les femmes, à ne pas choquer telle ou telle personne, finalement, tu fais de la soupe. Tu ne peux plus être incisif quant à une audience qui est très large. J'aurais pu avoir une audience plus large si je m'abstenais, par exemple, de critiquer la religion, ou de critiquer l'islam, ou de critiquer certaines femmes. J'aurais certainement une audience qui serait le double de ce qu'elle est actuellement. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je fais, ce n'est pas entretenir les moutons. Les simps, les moutons, ne m'intéressent pas. J'ouvre mon micro, je balance mes idées, je ferme mon micro. Ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, j'en ai rien à foutre. Voilà ma position. Je ne suis pas un boutiquier. Si j'étais un boutiquier, je pourrais doubler mes revenus, qui sont déjà très confortables. Je pourrais doubler mon audience, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas dire des choses qui sont opposées à mes valeurs pour entretenir les moutons. Donc ce que je te reproche, c'est pas de copier mon contenu et de ne jamais me citer. Ne me cite pas, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ton audience de simp n'est pas prête à écouter ce que j'ai à dire, donc je n'en veux pas non plus. Ce que je suis en train de faire, c'est de te mettre face à tes contradictions. Tu dis toi-même, inspiré de ce que je dis, qu'il faut éviter les femmes qui sont addictes aux réseaux sociaux, et tu es toi-même addict aux réseaux sociaux, tu es partout sur les réseaux sociaux, ton visage est partout sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu, pour résumer, quelqu'un qui dirait « La coke, c'est dangereux, mais j'adore la coke. » C'est exactement ce que tu fais. Et voilà pourquoi je ne te classerai pas parmi les femmes traditionnelles, même si tu te présentes comme une femme traditionnelle, je te classerai plutôt comme une influenceuse, comme une instagrammeuse, sauf que, au lieu d'être une instagrammeuse beauté ou une instagrammeuse make-up ou fashion, t'es une instagrammeuse ou une influenceuse tradition. Et pourquoi pas ? À choisir entre une influenceuse qui véhicule des valeurs traditionnelles, même si elle-même n'est pas traditionnelle, et une influenceuse qui véhicule des idées de poufias, Je préfère largement celle qui véhicule des idées traditionnelles. Même si tu n'es pas traditionnel toi-même, en t'affichant sur les réseaux sociaux, tu promeus la tradition, le mariage, l'héritage. Donc, à choisir entre les deux, je préfère ce que tu fais. Mais il faut être conscient, il faut être objectif, il faut être réaliste. Il ne faut pas tomber dans une forme de schizophrénie en te vendant pour la femme traditionnelle que tu n'es pas. Parce que tu es justement ce que j'ai classé comme le type numéro 6, la dopamine junkie accro aux réseaux sociaux. Et j'ai ajouté au site de rencontre. Alors, je ne sais pas si tu es accro au site de rencontre, mais en tout cas, aux réseaux sociaux, oui. Et cette exposition aux réseaux sociaux rendra ta vie future, ta vie amoureuse, ta vie de femme, ta vie de compagne, ta vie de mère, extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un me dit « Est-ce que tu te vois avec Thaïs d'Escuffon ? Est-ce que tu te vois poser avec Thaïs d'Escuffon ?» La réponse, c'est non. Pourtant, je ne la trouve pas désagréable. Elle est, pour la France, plutôt jolie. Je dis pour la France parce que c'est pas le pays qui a les femmes les plus belles. Hein. Les Slaves, les Polonaises, les Russes. Thaïs d'Escuffon, en Russie, c'est une femme très très moyenne. En France, peut-être un peu au-dessus de la moyenne. Mais voilà, la France, c'est pas un pays où tu te retournes dans la rue toutes les 3 minutes. Alors que Saint-Pétersbourg, tu peux pas marcher sans regarder à droite à gauche. T'arrives à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, t'as déjà perdu la tête. Les femmes russes, c'est un autre étage, c'est une autre échelle. Toutes les femmes slaves d'ailleurs, les ukrainiennes, les serbes, les polonaises, enfin c'est... voilà. Mais pour la France, elle est... voilà, c'est une femme plutôt jolie, je vais pas la critiquer. Mais la raison qui ferait que j'éviterais Thaïs d'Escuffon ou que je ne la considérerais jamais comme une potentielle compagne, c'est son exposition aux réseaux sociaux. C'est que quand t'es posé avec elle au café, tu veux passer une après-midi tranquille avec ta compagne par exemple, il y a 20 mecs qui vont la reconnaître. Quand t'es autant exposé sur les réseaux sociaux, tu te prépares à une vie infernale. Tu ne peux plus te poser en terrasse sans qu'on t'emmerde. Alors, je dis qu'on t'emmerde. Certains vont être sympathiques, ils vont vouloir juste te parler 5 minutes. Mais quand t'as pas envie de ça, c'est une emmerde. Il y a des moments où t'as peut-être envie de rencontrer ton audience si tu fais une série de dédicaces pour ton livre, etc. C'est un moment que tu consacres à ça. Mais il y a des moments, quand t'es posé en terrasse, que tu manges, que tu profites du soleil, t'as pas envie de parler à tes fans. Mais malheureusement, quand t'es autant exposé sur les réseaux sociaux, ta vie privée oublie. Un petit café tranquille en terrasse, oublie. Une vie de couple pépère, oublie. Donc une femme célèbre, populaire, pour moi, c'est non. Jamais de la vie. L'idée que 200 000 hommes, 200 000 simps connaissent ma femme, c'est inconcevable. Et je vais te donner un conseil que personne ne t'a donné, c'est un conseil de l'observateur dont tu te souviendras encore dans 10 ans. Ce que je vais te dire, ça va être assez violent, mais essaye de le prendre pour ce que c'est, de manière objective. Tu n'as jamais eu la chance de croiser un seul homme véritable dans ta vie. En tant que jeune femme, tu n'as jamais eu la chance de croiser un seul homme véritable dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'un homme véritable t'aurait recadré et ne t'aurait jamais laissé te perdre comme tu le fais sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé d'Hanouna. Un homme véritable, un daron qui fait vraiment le travail, un père qui fait vraiment le travail, ne t'aurait jamais laissé t'exposer comme tu le fais. Tous les hommes qui t'entourent, que ce soit tes amis, génération identitaire, tous les hommes que tu as croisés sont des simps. Aucun n'a osé te dire ce que je te dis. Et je vais te raconter l'histoire d'une femme traditionnelle qui n'a aucune photo sur Internet à ce jour. Zéro. Tu tapes son nom, son prénom, son nom de famille, son prénom, tu trouveras 0 photo d'elle. Quand ma sœur a eu son bac à 17 ans, mention très bien, mon père lui a dit « Bravo, maintenant tu vas t'enfermer dans ta chambre et tu vas faire de la chimie organique jusqu'à ce que tu saignes du nez. » Alors, j'exagère, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais mon père était particulièrement autoritaire et quand ma sœur a eu son bac, elle savait pas trop quoi faire. Médecine, pharmacie, biologie. Et on a eu une discussion à la maison. On discutait à la maison hein, des études, de ce qu'on va faire, de c'était important. C'était le sujet principal de discussion et il n'y a pas de secret dans la vie. Ou t'encadres ta famille, t'encadres tes enfants et ils deviennent quelque chose, ou tu les laisses dériver et ça devient rien. Ça devient de la merde. Dans ma famille, il était hors de question. Hors de question de faire une filière littéraire. Hors de question. Si tu dis à mon père, je vais faire psychologie, sociologie, histoire de l'art, tu quittes le domicile familial. Tu vas, à la limite, il va peut-être tolérer une tante dans le jardin, mais il ne te parle plus, tu dégages. Pour lui, c'était évident. Il n'était pas opposé à la littérature, mais pour mon père, c'est un truc que tu lis. Tu lis la philosophie, tu lis de la littérature, tu lis des livres d'histoire, mais tu n'as pas besoin de faire 5 ans d'université pour apprendre ça. Donc c'était même pas un sujet, tout ça c'était évacué. La question c'était, je fais médecine ou je fais pharmacie. La question des branches littéraires, c'était, si tu lui parles, je te garantis, il te vire, hein, tu dors dans la rue. Et il dit à ma sœur, ben tu vas faire pharmacie. Pourquoi ? Parce que médecine c'est trop long. Pour une femme, c'est pas conseillé, parce que si tu fais médecine, faudra faire une spécialité. Ça sert à rien de 7 ans médecine générale, c'est n'importe quoi. Donc tu fais ophtalmologie, pédiatrie, parce que c'est les spécialités qui sont rémunératrices. Et une spécialité en médecine, c'est 4 ans, donc 7 ans plus 4 ans, 11 ans minimum, et il lui dit, pour une femme, c'est trop long. Tu veux avoir une vie familiale, tu veux avoir des enfants, donc pharmacie, c'est très bien, c'est 5 ans, c'est court, c'est propre, contrairement à la médecine où tu dois toucher, manipuler des malades, surtout si tu fais chirurgie, le sang, bon, faut avoir l'estomac accroché, quoi. Donc c'est le conseil qu'il lui donne. Pharmacie, c'est propre, c'est extrêmement rémunérateur, que tu aies ta propre pharmacie ou que tu travailles pour un grand laboratoire. Pour une femme, c'est très bien parce que c'est essentiellement de la chimie. Si tu es pharmacienne, que tu as ta propre boutique, ben, y a un rapport au client, il y a aussi un travail de conseil que tu fais. Ça nécessite aussi beaucoup d'empathie et les femmes sont plutôt douées pour ça. Donc elles vont te conseiller le moindre mal entre deux médicaments, elles vont dire ben celui-ci a moins d'effets secondaires, etc. Donc le rapport au patient, l'empathie, l'identification à la douleur de l'autre, etc., c'est très féminin. Donc la pharmacie est une discipline qui est plutôt appropriée à beaucoup de qualités féminines. Et la chimie, contrairement aux sciences dures comme les maths, la physique, c'est assez proche de la cuisine, c'est une tambouille. Si tu as une bonne mémoire pour te rappeler du tableau de Mendeleïev, des quelques formules, des connexions entre tous les éléments, tu arrives à t'en sortir. Et ma sœur était particulièrement douée en chimie, donc elle a fait pharmacie, elle a fait des heures de chimie organique, elle est devenue pharmacienne. Elle a travaillé pendant 2 ans, puis ensuite, elle a pris un crédit bancaire pour monter sa propre pharmacie. Ça ne l'intéressait pas de travailler pour des laboratoires. Mon père l'a aidée à obtenir son crédit. Elle s'est installée à peine 27 ans. Elle avait déjà sa pharmacie, elle travaillait pour elle-même. Ensuite, elle s'est mariée avec un pharmacien qui était son collègue de faculté qu'elle avait rencontré en faculté de pharmacie, qui avait lui aussi monté sa boutique, qui était pharmacien. Ils sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Et roule ma poule. Sa vie a été totalement encadrée. Et tout ça, ça commence par quoi ? Ça commence par le daron. Ça commence par le daron. Si ton père ne fait pas le travail, tu ne seras jamais rien. Les merdes sont les enfants des merdes. Le délinquant, c'est d'abord l'enfant d'une merde qui n'a pas fait le travail. Le voyou, c'est le fils d'une merde qui n'a pas fait le travail. Les parents sont responsables de la dégénérescence. Les parents qui ne font pas le travail sont responsables de la dégénérescence. Si tu ne t'occupes pas de ta fille, il ne se passera rien de magique. Ça sera une pute. Si tu abandonnes ta fille, si tu ne t'occupes pas de ta fille, si tu ne l'encadres pas, ça sera une pute. Ma sœur n'est pas un génie. Elle n'est pas différente des autres femmes. Elle a eu la chance d'avoir mon père. Elle n'a pas eu la chance d'avoir un père. Elle a eu la chance d'avoir mon père. Et pour mon père, il était hors de question que sa fille traîne dans une fac de psycho avec des débiles, des dégénérés, des fumeurs de bœufs. Il l'a enfermée à la maison et ma sœur n'a jamais eu un appart à elle toute seule. Elle a vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 25-26 ans, jusqu'à l'âge où elle a commencé à travailler. Donc pendant toutes ces années d'études, moi je la chambrais, je l'appelais Marie Curie. Dès qu'elle sortait de sa chambre, je lui dis « ça va Marie Curie ?» Parce qu'elle passait des heures à faire de la chimie organique dans sa chambre. Elle bossait comme une malade. Et tu fais ça que quand il y a le daron. Quand il n'y a pas le daron, l'évolution naturelle, c'est la poufiasserie. Donc si tu es un homme, que tu m'écoutes et que tu as une fille, tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Sinon, le résultat, tu le connais. Je te l'ai déjà dit. Je ne vais pas répéter le mot PUTE un million de fois. On me dit souvent, l'observateur, tu critiques que les femmes. Mais non, j'ai été très clair sur la question. J'ai aussi critiqué les hommes. La raison pour laquelle il y a des poufias, c'est parce qu'il y a des simps. C'est parce qu'il y a des hommes fragiles. C'est parce qu'il y a des hommes soumis. Si OnlyFans existe, c'est qu'il y a des millions de simps qui payent pour voir des femmes nues sur cette plateforme. Si la dégénérescence existe, si le porno existe, c'est qu'il y a des millions d'hommes qui regardent. Je ne le dirai jamais assez, la femme est un caméléon. Dans une société traditionnelle, elle sera traditionnelle. Avec un père traditionnel, elle sera traditionnelle. Avec un encadrement traditionnel, elle sera traditionnelle. Dans une société de dégénérés, dans une société où les hommes eux-mêmes sont des fragiles dégénérés, les femmes deviennent des dégénérés. Les hommes sont aussi responsables de ce qui se passe. Le fragile est plus dangereux que l'homme fort. Et Jordan Peterson avait dit quelque chose de très intéressant, c'est peut-être sa citation la plus juste, la plus puissante, celle qui résume tout. Il a dit « Si vous avez peur de ce que les hommes forts sont capables de faire, attendez de voir ce que les hommes faibles sont capables de faire. » Parce que l'homme fort, il est capable de violence. Ponctuellement, il va être capable de violence. L'homme faible a une violence sournoise. L'homme faible détruit des sociétés sur des générations. L'homme faible détruit sa femme, sa fille, sa famille. Il flingue des sociétés sur des générations, sur des siècles. L'homme fort, il va faire la guerre, il va se bagarrer, il va mener une bataille, il va tuer, on va le tuer, fin de l'histoire. L'homme faible a une violence sournoise qui détruit des sociétés sur des générations. Le simp, le fragile, est bien plus dangereux que le guerrier. Le fragile, le vicieux, est bien plus dangereux que le guerrier. Et le dernier conseil que je donnerai à Thaïs, trouve-toi un ingénieur, évite les sociologues, les littéraires, c'est des branleurs. C'est des branleurs. Et je te vois déjà sourire à ce que je suis en train de dire. Hein. Tu te souviens de ta dernière rencontre avec un sociologue? T'as vu ce que c'est un sociologue? T'as vu ce qu'ils ont dans la tête? Te rappelles-tu de la gênance, de ce moment de gênance? Je ne sais pas si c'est complètement français, gênance, mais vous avez tous compris. De ce moment que t'as passé avec le dernier sociologue que t'as rencontré. T'as vu ce que c'est? T'as vu ce que c'est un littéraire? T'as passé une heure à regarder une vidéo en train de critiquer, de regarder des Wesh Wesh avec Stéphane Edouard. Tu regardes des vidéos de racailles de banlieue et tu critiques et tu rigoles. Et tu penses que t'as fait quelque chose d'intéressant? Tu réalises vers quoi est en train de te mener Internet? T'es une d'Escuffon, t'es une noble, t'es une aristocrate. Tu crois que tes ancêtres auraient fait ça? Ils se seraient posés pendant une heure, face caméra, en train de critiquer. Et pourquoi, d'après toi, les sociologues, ce sociologue en particulier, se posent devant des vidéos... qu'il analyse des vidéos faciles, il prend toujours des gens fragiles, des détraqués, des féministes, des racailles de banlieue, et il critique parce que c'est facile. Parce que c'est facile. On aime critiquer les gens qui nous sont inférieurs parce que ça nous donne l'illusion d'être supérieur. Est-ce que Stéphane Edouard pourrait faire une analyse profonde du travail de Jean Baudrillard et de sa critique sur la société postmoderne? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et son audience ne comprendrait pas. Jean Baudrillard, en sociologie, tu prends l'ascenseur, t'es en terrasse, comme dirait l'autre. C'est beaucoup plus facile de critiquer du wesh-wesh et de rigoler que de faire de la sociologie sérieuse et profonde. Et j'ai rien contre la sociologie en tant que discipline. Ce que je critique, c'est l'enseignement qui en est fait. C'est les débiles qui traînent dans les facultés de sociologie. C'est les quotients intellectuels inférieurs qui ont pris d'assaut cette discipline et qui en ont fait ce que c'est aujourd'hui. Quand on me dit « Ah, l'observateur, tu critiques la sociologie, mais t'adores Jean Baudrillard. » Mais vous croyez que Jean Baudrillard est du niveau des merdes qu'on a dans les facultés en ce moment? Faut pas comparer l'incomparable. La majorité des psychologues et des sociologues et de tous les littéraires qu'on a aujourd'hui sont mauvais, sont médiocres, sont nuls. Et ils font ça par défaut, ils font pas ça par choix. Jean Baudrillard aurait certainement pu faire mathématiques, physique, des sciences dures. Il aurait pu, Il en a l'intellect, il en a la capacité. Il a fait sociologie par choix, parce que ça l'intéresse. C'est quelqu'un de brillant qui fait de la sociologie. Ce qui n'est pas du tout le cas des nouvelles générations. La majorité des nouvelles générations sont en échec scolaire. Ils font des bacs, ils ont des bacs et des notes médiocres. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans ces filières, parce qu'ils n'ont pas la moyenne pour faire médecine, pharmacie, chimie organique, biologie. Ils n'ont pas le niveau. Voilà pourquoi ils font des branches littéraires. Pas par choix, mais parce que c'est la seule filière à laquelle leur intellect leur donne accès. Donc, Thaïs, t'as oublié ton nom de famille. Ton nom de famille, c'est Descuffon. Tes ancêtres n'auraient jamais fait ça. La noblesse, l'aristocratie, c'est une responsabilité. Donc, arrête de faire n'importe quelle association. Arrête de t'associer à n'importe qui. Ce qu'il faut aussi que tu gardes à l'esprit, c'est que toutes les traces que tu laisses sur Internet sont indélébiles. Rien ne disparaît. Et cette scène assez gênante que tu nous as offert avec le sociologue, dis-toi qu'un jour tes enfants vont la voir. Et un jour, ton fils ou ta fille va te dire « Maman, c'est quoi ce truc ? C'était qui ce gars qui t'a demandé d'aller faire deux cafés ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que tu faisais quand t'étais jeune ? C'est quoi ce truc ?» Donc le conseil que je te donnerai, et je pense que c'est un mécanisme mental qui est intéressant, c'est un exercice qui est intéressant à faire, quand tu fais une vidéo, quand tu fais une association, quand tu t'exposes sur Internet, dis-toi que un jour, tes enfants vont le voir. Donc, si c'est assez digne et assez sérieux et assez intéressant pour être vu par tes enfants, ben finalement, tant mieux, c'est très bien. Si tu juges que ce n'est pas de qualité et que tu auras honte de ça dans quelques années, ne le fais pas. Voilà le conseil de l'observateur. Tu es une aristocrate, arrête de fréquenter les scumbags. Arrête de fréquenter tous les déchets de l'humanité qui traînent sur Internet. Conseil honnête de l'observateur que personne ne te donnera. Tous les hommes que tu as rencontrés jusqu'à présent sont des déchets de l'humanité, que ce soit à génération identitaire ou ailleurs. Aucun n'avait la présence, la virilité et l'intellect suffisant pour te recadrer. Aucun. À commencer par le premier. Donc arrête de faire n'importe quoi. Comme le disait Mark Knopfler dans l'une de ses meilleures chansons, « What's the matter with you, baby ?»« What's the matter now ?»« Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie ?»« Qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais il n'est pas trop tard, Thaïs. Donc, dernier conseil, trouve-toi un ingénieur en informatique, idéalement un data analyst. Fais-nous 3 enfants, 3 petits aristocrates pour repeupler le pays et roule ma poule. Le reste, c'est du bonus. Tu te souviendras de ce que je t'ai dit et dans quelques années, tu diras « Je le déteste ce FDP ». Il avait raison. Il avait raison, l'enfoiré. Et à ce stade du podcast, je m'apprêtais, comme promis, à vous lire un extrait du livre Caractère, le chapitre 10, « La fausse femme traditionnelle, l'habit ne fait pas la sœur », mais je réalise qu'il est déjà assez long, comme quoi vous voyez que je ne prépare pas mes textes. Et je pensais vraiment pouvoir faire dans ce même podcast, à la suite, la lecture du chapitre, mais si je le fais, il sera beaucoup trop long, et je me dis pourquoi pas 2 épisodes avec 2 parties bien distinctes, une partie que vous êtes en train d'écouter complètement libre avec mes idées qui vont un peu dans tous les sens, et une 2e partie qui est une lecture du chapitre, comme ça vous aurez dans un seul fichier audio, avec un seul lien, le chapitre concerné. Et je pense que c'est bien mieux de structurer la chose ainsi, plutôt que de faire un long podcast de 2 heures avec la partie que vous avez écoutée, plus la lecture du chapitre. Je pense que structurer les choses fonctionne beaucoup mieux, ça vous fera 2 audios différents que vous pourrez consulter différemment. Et voilà, au moment où j'enregistre, voilà l'idée que je viens d'avoir. Comme quoi, je prépare vraiment pas mes podcasts à l'avance, et tout ce que vous entendez, c'est mes idées qui défilent dans ma tête. Il n'y a aucun script, aucune préparation à l'avance. Les idées s'ordonnent, se structurent dans ma tête. Il m'arrive de faire des bullet points, une petite liste comme ça pour savoir de quoi je vais parler à quel moment. Mais à part ça, il n'y a pas de script, il n'y a pas de préparation. Je m'assois, j'ouvre le micro, je parle, je ferme le micro. Donc, promis, ça va arriver dans quelques jours. Je ne prendrai pas 2 semaines pour le faire. C'est vraiment dans les allez, peut-être 5, 6 jours, une semaine, grand maximum, vous aurez la lecture intégrale du chapitre 10, la fausse femme traditionnelle. L'habit ne fait pas la sœur, avec une histoire vraie, une histoire très intéressante d'un jeune homme qui s'est fait détruire par une fausse femme traditionnelle, détruire au point de risquer 7 années de prison. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.